Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et à 7h30, votre journal vous est présenté par Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Aux grands mots, les grands remèdes et aux grands excès de vitesse, bientôt les grandes sanctions. À partir de lundi, ils deviennent des délits punissables de 3 mois de prison et jusqu'à 3 750 euros d'amende. L'espoir prudent des salariés de Brand ce matin, après l'annonce surprise d'un projet de reprise de leur usine d'Orléans, 2 semaines après le placement en liquidation judiciaire du fabricant d'électroménager. Et puis l'heure était aux retrouvailles hier soir à Marseille, où la bonne mère a accueilli sa première messe de Noël depuis sa rénovation.
Il va falloir lever le pied.
Car à partir de lundi, les très grands excès de vitesse vont devenir des délits. Jusqu'ici, ils n'étaient sanctionnés que par une simple contravention à moins d'une récidive. Mais désormais, si vous roulez à plus de 50 km/h au-dessus des limitations, vous risquerez une inscription au casier judiciaire, 3 mois de prison et 3 750 euros d'amende, Marius Roland.
L'addition pourrait être salée, mais selon cet automobiliste au volant de sa voiture, cette mesure peut faire effet.
Je pense que c'est une bonne idée, même si tous ceux qui sont concernés n'arrêteront pas forcément. Peut-être que ça en freinera certains et peut-être que dans ce cas-là, on pourra éviter certains accidents.
Tous les conducteurs ne sont pas du même avis. En train de faire le plein, Stéphane estime que ces sanctions sont trop drastiques.
Ouais, ça peut être dissuasif, mais je trouve ça un peu sévère comme peine pour 50 km/h de plus. Enfin, on a vite fait d'aller à 50, dans ce cas-là, ils ont qu'à brider toutes les voitures et puis on sera tranquille. Ils nous mettent tous à 25 km/h ou on roule tous à vélo. Ce sera très bien encore.
En alourdissant la peine pour les excès de plus de 50 km/h, il faudra être vigilant sur les voies où la vitesse maximale est de plus en plus basse, car un petit excès pourrait devenir un gros. Rémi Joussaume est avocat du droit routier.
Quand vous réduisez à 80 km/h la vitesse sur les routes départementales, les gens n'ont pas forcément changé leur habitude de conduite. Et la route, elle n'est pas plus dangereuse qu'auparavant. Simplement, comme on a baissé la vitesse, on fait entrer dans le filet des personnes qui commettent des excès de vitesse d'au moins 50 km/h, plus de personnes qu'auparavant.
Selon les données de la sécurité routière, la vitesse représente la première cause de mortalité sur les routes françaises.
Et les grands excès de vitesse sont en forte augmentation, plus 69% depuis 2017.
Et on en parle juste après ce journal avec mon invité, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marie-Pierre Védrenne, en direct sur RMC.
La nouvelle a donc été confirmée hier et on connaît désormais l'identité de l'homme d'affaires qui propose de reprendre l'usine Brandt d'Orléans. Il s'agit du patron de l'entreprise d'informatique Thomson Computing, Stéphane Français, qui sera d'ailleurs votre invité, Charles, à 8h10. Il propose de sauver 150 emplois du groupe d'électroménager placé en liquidation judiciaire il y a 2 semaines. Mais ça ne sera pas si simple, rappelle la spécialiste des questions de réindustrialisation, Anaïs Voigilis.
Le marché de l'électroménager est extrêmement concurrentiel. Il y a certainement de la place pour des produits made in France, peut-être haut de gamme, peut-être sur des tailles de produits différentes. Mais ça s'étudie. Si c'est pour refaire des produits qui sont produits ailleurs en grande série à prix très compétitif, il va falloir avoir des investissements industriels importants pour automatiser et essayer de se rapprocher du prix chinois. Et donc ça pose tout aussi la question du modèle industriel qu'on veut défendre en France. Faire de l'électroménager en France est important. Maintenant, la réalité du marché est que le consommateur ne suit pas forcément.
Un projet de reprise qui devra de toute façon être validé par la justice.
7h34 sur RMC, on en vient à présent à ce terrible homejacking dans le Val-de-Marne.
Un cambriolage ultra violent qui s'est déroulé mardi soir dans un pavillon de Saint-Maur-des-Fossés. Les 3 cambrioleurs toujours activement recherchés ce matin s'en sont pris à l'enfant et à la nourrice des propriétaires, Julie Brou.
Oui, vers 19h30, mardi soir, 3 hommes font irruption dans un pavillon de Saint-Maur-des-Fossés. À l'intérieur, une petite fille de 3 ans et sa nourrice se font alors séquestrer par l'un des cambrioleurs. Armé d'un couteau, l'homme plaque et maintient au sol la nounou qui tient de toutes ses forces l'enfant dans ses bras. Il a ensuite menacé de tuer la fillette en cas de mouvement, confie une source policière. Une scène d'une extrême violence qui a duré plusieurs dizaines de minutes avant que les 3 malfaiteurs prennent la fuite après avoir entièrement fouillé la maison. À ce stade, le préjudice financier n'est pas encore connu, mais la petite fille et sa nounou ont été hospitalisées mardi soir en état de choc. Les 3 malfaiteurs, eux, sont depuis activement recherchés par les enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne.
Jour de repos à la Coupe d'Afrique des Nations ce jeudi, après notamment la victoire de l'Algérie 3-0 hier face au Soudan. Et désormais, les supporters peuvent entrer gratuitement dans les stades 20 minutes après le coup d'envoi. La mesure a obtenu le feu vert du comité d'organisation marocain de la CAN et de la Confédération africaine de football. Mais vous l'avez constaté sur place, Nicolas Pelletier, ça n'est pas sans conséquences.
Oui, depuis dimanche soir, de nombreux stades sont loin d'être complets pour les rencontres de la CAN. Pour éviter les sièges vides, les autorités marocaines et l'organisation distribue des billets gratuitement dans les quartiers proches des enceintes. Des places à 200 dirhams marocains, environ 20 euros, sont données aux passants. Mais depuis quelques heures, la nouvelle se propage rapidement entre les supporters. Hier, lors du match de l'Algérie, cette méthode s'est retournée contre l'organisation. Alertée sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de personnes se sont présentées au stade sans billets, entraînant des mouvements de foule et bousculades. Les autorités n'ont pas du tout apprécié et l'organisation a décidé de fermer les grilles du stade dès le début du match. Conséquence, certaines personnes qui avaient acheté des billets officiels n'ont pas pu voir la rencontre.
Et ça aurait pourtant pu avoir des allures de cadeau de Noël, ces matchs gratuits de la CAN. Un vrai cadeau à présent pour les Marseillais qui ont pu assister hier soir à la première messe de Noël de Notre-Dame de la Garde depuis sa rénovation. Des Marseillais nombreux et heureux. Anna Jojard.
Il y avait tellement de monde sur les bancs que beaucoup ont assisté à la messe debout. Parmi eux, nombreux sont ceux qui venaient pour la première fois.
Pourtant, j'ai toujours vécu à Marseille, mais c'est la première fois.
Nos familles sont un peu éparpillées à droite, à gauche pour cette soirée. Donc on a pris la décision de venir passer le réveillon ici.
Ça me paraît important. C'est un moment en famille, c'est un moment festif.
Un moment collectif où les Marseillais ont pu admirer de près la bonne mère rénovée.
Ah, elle est rayonnante, elle est magnifique, ça fait plaisir de la voir comme ça.
Elle est toute belle maintenant, donc gardienne de Marseille et de tous les Marseillais, et voilà.
Et c'est d'ailleurs spécialement pour voir la basilique que Christelle et sa mère Eliane sont venues.
C'est pas tant pour leur religion, parce que je suis plus athée que chrétienne, mais c'est parce que ce qu'elle représente pour Marseille.
Qu'on soit catholique, musulman ou même... le monde, Notre-Dame, c'est Notre-Dame de la Garde.
Ouais. Et ces deux Marseillaises l'affirment. Ici à Marseille, la bonne mère, c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris, mais en un peu mieux quand même.
Lui prononcera sa toute première bénédiction de Noël. Le pape Léon XIV s'exprimera à midi, heure française, depuis la basilique Saint-Pierre et devrait renouveler ses appels à la paix, même si sa demande de trêve n'a pas été respectée, notamment en Ukraine. De son côté, Donald Trump souhaite un joyeux Noël à tous, y compris aux pourritures de gauche radicale. Fin de citation. Une référence à ses opposants démocrates qu'il nous offre ce matin sur ses réseaux sociaux.